Voilà, on se réjouit pour nos jeunes qui sont à Mulhouse. C'est la grande banlieue de Lausanne, comme tout le monde le sait. Et c'est vraiment des temps bénis. Et je crois que le Saint-Esprit, comme il a été prié, eh bien, il est présent. Et ça, c'est vraiment une bénédiction pour nous. Le Saint-Esprit n'est pas arrêté par la géographie. Amen. Et on peut le louer, le bénir, comme on l'a fait au travers des chants, au travers de cette scène. On déclare notre foi. Et c'est vraiment un privilège parce que Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il sauve, il libère, il revient. Et on n'a pas besoin de faire des efforts extraordinaires parce que Dieu a tout accompli en Christ. Amen. On a juste besoin d'être là et de dire, je crois ta parole, je crois que tu es présent par ton Saint-Esprit. Amen. On va lire le texte. Je vous invite à lire le texte dans Actes au chapitre 1. Est-ce que vous aimez les jours fériés? Apparemment, donc si vous êtes là, c'est que vraiment vous aimez Dieu. Vous n'êtes pas parti en week-end, mais c'est vrai que les jours fériés, ça permet de se détendre, hein, n'est-ce pas? Vous savez bien, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, et on va le lire, on a la preuve, à cause de qui on a à cause de qui ou grâce à qui on a ce jour férié? Grâce à Dieu lui-même, on va le lire ensemble. Actes au chapitre 1, et à partir du verset 1, donc c'est Luc qui écrit le livre des Actes. Et il dira, « Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il a été élevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux, vivant, et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla en ce qui concerne le royaume de Dieu. » Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et puis on va lire, on peut prendre dans Acte 2. Donc après, dans chapitre 1, les disciples voient l'ascension de Jésus. Et puis, dans Acte 2, je ne lis pas tout le texte, juste quelques versets. Au verset 1, il est dit, « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. » Amen. Et ici, on voit dans le texte, on connaît le texte, enfin pour la plupart, on voit qu'ensuite, effectivement, ça va susciter un intérêt particulier et le Saint-Esprit, au travers de son Église, va toucher des représentants de différentes nations. Et on estime que dans ce moment-là, dans cette période-là, c'est véritablement, quelque part, la, entre guillemets, la naissance de l'Église de Jésus-Christ. Même s'il y avait des personnes qui suivaient Jésus, personnes qui déjà avaient fait une expérience, qui avaient guéri en son nom, un peu comme les prémices, les 120, mais véritablement, quand l'Esprit de Dieu descend, il entre véritablement dans leur appel, dans leur ADN de ce qu'est l'Église. Cette relation avec Dieu vivante, également d'être des témoins à sa gloire. Alors, c'est vrai que dans ces différents textes, alors je vais juste, voilà. Dans ces différents textes, on va voir ensemble l'action, l'impact, peut-être on peut lancer, je ne sais pas si elle y est, l'impact de la Pentecôte. On va parler de ce qui se passe avant la Pentecôte pour l'Église. On va faire un état des lieux. On va voir ce qui se passe pendant la Pentecôte. Et puis, qu'est-ce qui se passe après? Et on finira par l'impact de la Pentecôte aujourd'hui, à Bussigny, dans ce lieu. Et Christian a prié la prière, l'appel de Jésus dans Jean 7. Venez à moi, vous tous qui avez soif. Et d'ores et déjà, je vous annonce la fin du message. C'est bien, non? Mais ne partez pas, hein, il y a quelque chose entre. Qu'on puisse ouvrir nos cœurs à l'action du Saint-Esprit aujourd'hui, dans nos vies. Amen. On va simplement lui faire de la place. Il y a eu cette pensée aussi qui a été partagée au niveau des musiciens. Et on sait par expérience que Dieu est Dieu, il a tout accompli. Et nous avons, quelquefois on dit au Seigneur, vas-y, interviens, s'il te plaît, révèle-toi. Et puis, des fois, c'est Dieu qui prie et qui, dans le ciel, prie, Seigneur, que mon Église vienne, qu'ils soient prêts, qu'ils ouvrent leur cœur. Il y a un aspect qui est là. Et nous sommes dans la foi parce que nous croyons que la parole de Dieu est la vérité. Amen. C'est vrai que il y a une dépendance vitale au Saint-Esprit. On l'a vu la semaine dernière dans Romains 8, verset 8. Il est dit que ceux qui dépendent de leur propre nature, la Bible nous dit qu'ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Ceux qui dépendent de leur propre nature, c'est la nature qui est marquée par le péché, par nos réflexions, par nos idées, par beaucoup de choses. Et Paul dira que pour vivre cette vie avec Dieu, eh bien, nous avons besoin de nous reposer sur le Saint-Esprit. On a besoin, il est dit que ceux qui se conforment à leur nature propre, c'est dans Romains 8, il est dit qu'ils se préoccupent des réalités de la nature humaine. Mais ceux qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit. Et je voudrais qu'à chaque fois que je prononce le mot « Esprit », on comprenne le Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit. Et nous avons besoin, j'ai besoin, et on le sait que dans différentes situations, on le sait qu'on est de Dieu, Dieu nous communique sa vie, et après on commence à marcher, on commence à vivre la vraie vie. Et des fois on est pris dans des situations qui sont compliquées. On est là, des fois on est dans la confusion, des fois on réfléchit à des solutions, des fois on essaye de faire beaucoup de choses. Je ne sais pas vous, mais en tout cas moi ça m'arrive souvent, malheureusement. Et d'un seul coup, je me dis, mais je vais prendre du temps dans la présence de Dieu. Je commence à prier, je commence à parler en langue, je commence à simplement dire à Dieu, ben, sois Dieu dans ma vie, sois Dieu dans cette situation. Et très souvent, et je ne sais pas si vous avez remarqué aussi dans nos réunions de prière, d'un seul coup, le Saint-Esprit vient, il encourage, il parle, il reprend, il donne une impulsion. Et on se dit, ah ok, on se réaligne avec Dieu, le Saint-Esprit. Mais c'est vrai également, ça c'est pour notre vie, mais c'est vrai également cette dépendance pour le service. Nous ne sommes pas seulement appelés à être en relation vivante avec Dieu. On n'est pas seulement, ce qui est déjà beaucoup, d'être appelés à être réconciliés avec notre Dieu. Mais Dieu nous appelle en tant qu'Église à être des témoins. Nous sommes appelés à être des témoins de sa gloire. Et on regarde, est-ce que on peut se souhaiter un bon anniversaire? Peut-être, est-ce que la personne à côté, est-ce que vous pouvez lui souhaiter un bon anniversaire? Alors c'est bien parce que, merci beaucoup, merci beaucoup de me faire confiance, parce que en tant qu'Église, il est considéré la Pentecôte comme la naissance de l'Église. Dans Acte 1, on l'a lu, hein, Luc dira, Christ, Jésus a commencé de faire, il a commencé d'enseigner. Donc ça c'est dans son évangile. Au verset 3, il va se montrer ressuscité à ses disciples. Il va leur parler du royaume de Dieu pendant 40 jours. Et puis au verset 4, il va leur dire quelque chose d'essentiel. C'est Dieu, il sait quoi faire. Il dira à son Église, les prémices, les 120, les disciples qui l'ont suivi, qui ont cru déjà, et qui ont également reçu ce salut parce que Christ est ressuscité à ce moment-là, il leur dira, mais attendez la promesse, ne partez pas tout de suite. Et on a dans ce récit la venue de la puissance du Saint-Esprit sur l'Église de Christ qui a obéi, qui a suivi, qui a entendu l'appel de Christ. Et voilà qu'on a la prédication de Pierre. Pierre va prêcher la résurrection de Christ. Il va prêcher le salut de Christ. Et que se passe-t-il ? À ce moment-là, il y a 3000 conversions. 3000 conversions. Voilà que l'Église rentre dans son appel véritablement. Parce qu'on lit dans la parole de Dieu, dans Actes 2 et au verset 32, il est dit, et c'est ce que Pierre va dire dans sa prédication. Il va dire, ne soyez pas étonnés de ce que vous entendez, ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. L'effusion du Saint-Esprit sur l'Église primitive va être un signe flagrant que Christ est véritablement ressuscité et que l'Église de Christ va continuer de faire, va continuer d'enseigner, va continuer de partager et de faire des miracles et partager la bonne nouvelle comme Christ a pu le faire. Et il y a une pierre, des fois, il y a des discussions sur quand Jésus dira à ses disciples, mais croyez, croyez en moi, vous allez faire les mêmes choses que je fais et même de plus grandes. Moi, souvent, quand j'ai lu ce texte, j'ai dit, ok, bon, je crois les autres versets de la Bible. Celui-là, j'ai un peu de mal. Mais quand on comprend qu'à la Pentecôte, la naissance de l'Église néo-testamentaire, bien sûr, l'Église naît au travers du sacrifice de Christ. Christ est ressuscité, nous sommes purifiés au travers du sang de l'agneau. Mais ils auraient pu partir tout de suite. Et on va voir dans quel état, l'état des lieux, on peut passer l'autre slide, l'état des lieux de l'Église avant la Pentecôte. Ils auraient pu y aller. Mais ils ont obéi à Dieu en disant, on va faire ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une lubie, ce n'est pas juste un truc pour les pentecôtistes. C'est juste Jésus qui a dit, attendez la promesse. Et j'aime beaucoup la question dans Acte 1, vous l'avez ici, au verset 11. Quand Jésus va retourner dans sa gloire et que les disciples... on peut imaginer, sont tellement étonnés de ce retour. Ils vont regarder, ils ont vécu beaucoup de choses. Ils ont vécu des choses aussi difficiles, parce qu'il y a eu l'arrestation de Jésus, Pierre a renié, ils ont discuté sur qui serait le plus grand, etc. Et voilà que Jésus vient, il est ressuscité, et il le voit repartir. Et je pense que quand il voit Jésus repartir, il doit y avoir un « mixed feelings », ils doivent être partagés dans leur cœur. Ils doivent se dire, waouh, Christ est ressuscité. Mais pourquoi il part ? Pourquoi il part maintenant ? On a vraiment besoin de lui. Et ils sont là, ils regardent. Et voilà l'ange qui leur dit, mais pourquoi vous restez ? Pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Pourquoi restons-nous à regarder le passé ? Pourquoi restons-nous à regarder ce que Dieu a fait ? Des belles choses que Dieu a fait dans le passé. Dieu nous dit en tant qu'Église, ce n'est pas seulement un jour férié aujourd'hui. C'est le jour où Dieu veut agir et veut nous renouveler dans la puissance de son esprit. C'est le jour où il nous a invités ensemble à être dans la chambre haute pour louer Dieu, pour l'adorer pour son salut, mais également et je crois profondément que c'est la pensée de Dieu ce matin, de dire, mais Dieu veut nous visiter à nouveau, veut nous renouveler, veut nous inspirer par son Saint-Esprit. Alors, quel est l'état des lieux de l'Église avant la Pentecôte ? On a compris que Jésus ressuscite, 40 jours, il parle du royaume des dieux, du royaume de Dieu avec ses disciples. Et on peut se dire, quel est leur état d'esprit ? On a, par exemple, vous vous souvenez de Thomas dans Jean 14, au verset 5, vous vous souvenez qu'on est dans le discours d'au revoir, c'est la fin du ministère de Jésus. Et à ce moment-là, Jésus va dire, je vais vous préparer une place, je m'en vais vers le Père. Donc il annonce à l'avance l'ascension. Et il leur dira, mais je vais vous préparer une place. Et d'un seul coup, Thomas lui dit, mais où tu vas ? On ne sait pas où tu vas. On ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe ? Et Jésus dira, mais ça fait tellement longtemps que tu es avec moi ou avec nous et tu ne sais pas encore, tu n'as pas encore compris. Je ne sais pas le chemin. Thomas suit Jésus depuis un certain temps. Il a laissé tout pour le suivre. Il a vu des miracles. Il a entendu l'enseignement de Jésus. Il a véritablement été proche de Jésus. Et voilà que Jésus va annoncer le retour, son retour en gloire. Et voilà que Thomas dit, mais écoute, je suis perdu là. Je suis désorienté. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais pas. Tu es en train de me parler et je ne sais pas. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin ? On est chrétien, on le sert, on l'aime, et on est perdu un peu. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quoi faire ? Qu'est-ce que Dieu dit ? Qu'est-ce que Jésus dit ? Je suis un peu désorienté. Juste après la croix, Jean 20, 19, les disciples sont réunis le soir de Pâques, en un même lieu, mais toutes portes closes par crainte des Juifs. Christ est sur la croix, il a donné sa vie, et voilà que l'église de Christ, après la croix, va se retrouver pour une réunion de prière, mais ils ferment les portes à clé, parce qu'ils sont dans la crainte, ils sont dans la peur, à juste titre, à juste titre. Mais voilà que l'embryon, les prémices de l'église, dans ces jours-là, dans ces 40 jours-là, eh bien, ils sont à ce moment-là dans la crainte, dans la peur. Ils se retrouvent entre eux. Et il y a comme une espèce d'anxiété par rapport à la suite. Et puis on a ces Cléopas en Luc 24, 21. Voilà qu'il va, ils vont voir Jésus, ils vont rencontrer Jésus et ils ne le reconnaissent pas. Et Jésus leur dira, mais qu'est-ce qui se passe ? Et ils vont raconter ce qui s'est passé, la croix. Et ce disciple-là va dire, nous qui espérions qu'il allait délivrer son peuple d'Israël. Et il va commencer à parler, il va dire, mais est-ce que tu ne sais pas ce qui s'est passé ? Voilà que le Messie était là, celui qui faisait des miracles, celui qui nous aime, celui qui, en qui on avait mis notre espérance. Et voilà qu'il meurt sur la croix, ils ne l'ont pas encore vu comme ressuscité. Et il leur dira, mais il dira à Jésus, alors qu'ils ne le reconnaissent pas, mais voilà, mais j'espérais vraiment qu'il se passe ça, vraiment. J'avais déjà imaginé que j'allais pouvoir faire des miracles extraordinaires. J'ai imaginé que Jésus serait toujours à côté de moi. J'ai imaginé ça et je suis très déçu. Je suis désabusé. Je suis comme un sentiment d'échec, déçu. Pour quelqu'un qui a été avec Jésus, qui a entendu aussi l'enseignement. Alors, ça s'arrange, hein ? Ça va s'arranger. Voilà que Jésus se montre aux disciples, il montre qu'il est vivant, il montre qu'il est ressuscité, ça va, on se sent mieux. Donc là, maintenant, ils sont en sécurité. Dans Matthieu 28, versets 16 à 20, et puis il est dit que les 11 disciples vont en Galilée, ils ont rendez-vous avec Jésus, le ressuscité, et à ce moment-là, Jésus va leur dire, c'est à ce moment-là qu'il va leur dire la mission, il dira, mais tout pouvoir m'a été donné dans le ciel sur la terre, allez faites de toutes les nations des disciples, etc. etc. C'est formidable, hein ? Oui ? Superbe. Voilà, maintenant, avant la Pentecôte, on respire, Jésus est vivant, Jésus est ressuscité. Qui croit ce matin que Christ est vivant, il est ressuscité. Amen, il est véritablement ressuscité. Alors tout va bien. Si ce n'est que, vous avez la même Bible que moi, au verset 17. Au verset 17, ça s'arrange encore mieux, puisque quand ils le voient, ils l'adorent. Ils vont l'adorer. C'est formidable. Hein mais il y a quelques mots en plus où il est dit, mais quelques-uns eurent des doutes. quelques-uns eurent des doutes. Est-ce que c'est possible, dans ce temps de louange qu'on a eu, d'avoir des doutes dans la présence du Seigneur? Oui, c'est possible, hein, parce que eux-mêmes, moi ça me rassure, hein, c'est des gens qui sont en présence du ressuscité, voilà qu'ils ont, des doutes. Dernier point de constat que je souhaiterais faire de l'état des lieux de l'Église avant la Pentecôte, c'est l'épilogue de Jean, chapitre 21. L'évangile de Jean, des versets 1 à 13, on a le miracle de la pêche extraordinaire. Vous vous souvenez, les disciples qui ont pêché, qui n'ont rien ramené, puis d'un seul coup, il y a une pêche extraordinaire. Et là, c'est le miracle, et c'est comme un signe de Jésus qui va dire à l'Église, voilà ce à quoi vous êtes appelés, pêcheurs d'hommes. Vous êtes appelés à annoncer le salut. Alors, versets 14 à 19, Pierre, qui a renié Jésus, à un moment donné, Jésus va lui dire et va le réhabiliter. Il va le regarder, alors ça nous encourage, parce que face à nos erreurs, face à nos échecs, face des fois à ce que l'on pourrait faire faux, voilà que Dieu nous donne une nouvelle chance. Dieu nous redonne, nous fait grâce. Et c'est ce qui arrive à Pierre. Pierre est là, dans la présence de Jésus, et Jésus va le regarder et lui dira, « Pierre, m'aimes-tu ?» Et vous connaissez, il lui dira trois fois, parce qu'il l'a renié trois fois. On est à la fin de l'Évangile. On est vraiment dans ces temps juste avant la Pentecôte. Et Pierre, qui est désolé intérieurement, il dira, « Mais tu sais toute chose, tu sais que je t'aime. » Et Jésus va lui donner ce mandat à nouveau de dire, « Écoute, je t'appelle à être pasteur, prends soin de mon Église. Prends soin de mon Église. Continue à me servir. » C'est extraordinaire, hein ? Oui ? Si ce n'est qu'au verset 20, regardez dans la Bible, au verset 20, qu'est-ce qui se passe du chapitre 21 ? Pierre se retourne. Ça, c'est dommage pour lui. Alors qu'il est restauré, alors qu'il est appelé à servir Dieu, Pierre se retourne. Qu'est-ce qu'il voit ? Il voit l'apôtre, un autre disciple. Et la Bible me dit, il voit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» Verset 21, « En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et lui, là, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer avec lui ? Que va-t-il lui arriver ?» On est avant la Pentecôte, quel est l'état des lieux de l'Église ? Certains sont désorientés, certains ont peur, certains sont dans la crainte, certains ont des doutes, malgré la réalité de la résurrection, malgré tout cela. Et voilà que Pierre, un des piliers de l'Église, va être restauré, c'est extraordinaire. Il va regarder, il va se retourner et il va se comparer avec le disciple que Jésus aimait. Et là, il a en plein fouet, il prend de plein fouet son insécurité. Il se compare, il est encore dans l'insécurité. Ce Pierre qui, malgré son appel, cherche à être le premier, cherche à marcher sur l'eau, il cherche à ce que, eh bien, alors que tout le monde va abandonner Jésus, moi je ne t'abandonnerai pas. Quand Jésus lave les pieds de ses disciples, il dit, bon non, mais après coup finalement, lave-moi entièrement. Il est celui qui veut être vérité. Bon, c'est son tempérament. Mais ici, on est en train de voir que dans les cadres de l'Église, il y a une faille dans le cœur de Pierre. Et ce cœur, dans son cœur, c'est une insécurité profonde. Parce qu'il voit qu'il a touché du doigt sa limite. Et il a vécu la grâce de Dieu, puisqu'il est restauré. Mais voilà que c'est complètement insupportable, parce que dans l'évangile de Jean, à 5 reprises, il est noté que Jean, d'ailleurs il n'est pas noté Jean, il est parlé l'autre disciple, il est celui que Jésus aimait. Et voilà que dans Pierre, la grande question c'est de se dire, malgré tout ce que j'ai fait, je touche du doigt mes limites, j'ai cherché à être accepté, j'ai cherché à être aimé, j'ai cherché à montrer que finalement je ne suis pas si mauvais que ça. Et voilà que celui-là qui fait un peu moins, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que Dieu l'aime plus que moi ? Et il y a une faille qu'il a besoin de régler. Il a besoin de véritablement régler dans son cœur ce problème. Et vous savez, quand il est dit que Jésus, le disciple que Jésus aimait, Pierre, il a découvert la grâce de Dieu et la réhabilitation. Mais Jean, il est écrit dans son évangile, c'est lui qui écrit le disciple que Jésus aimait. Quand on voit la vie de Jean, c'est celui qui a appelé le tonnerre sur ceux qui n'ont pas accepté Christ. Il est celui qui s'est endormi à Gethsémané. Il est celui qui a été intolérant, qui a arrêté certains qui chassaient des démons au nom de Jésus. Il est quelqu'un qui, finalement, c'est quelqu'un qui court plus vite que Pierre aussi, puisqu'au tombeau, il a couru vite. Mais la réalité, c'est que quand il est écrit cela, écoutez bien, c'est important, c'est que cet apôtre, ce disciple, c'est pas parce qu'il était préféré, c'est pas parce qu'il était à la croix lorsque Jésus était là et que Jésus lui a confié sa maman, c'est pas parce qu'il en faisait plus, c'est pas parce qu'il était plus perspicace, parce qu'il est rentré dans le tombeau, il a cru, il a vu, il a cru. C'est tout simplement parce qu'il est celui qui a réalisé profondément que malgré tous ses défauts, Dieu l'aimait quand même. Jésus l'aimait quand même. Et ça, pour Pierre, c'était insupportable. Insupportable. Parce que lui n'en était pas encore là. Donc, tout ça pour dire qu'au final, avant la Pentecôte, on a cette église-là. Et j'ai une question à nous poser. Est-ce que, avec tout ce qu'on a souligné là, est-ce que l'église était prête à accomplir la mission pour laquelle elle avait été créé, sauvé, appelé. Au regard de ces textes, on peut se dire que ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il pendant la Pentecôte ? Pendant la Pentecôte, on peut passer l'autre. Oui, peut-être je peux le passer. Pendant la Pentecôte, on a cette église qui est dans la chambre haute. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand dans l'évangile de Marc, Jean intervient et il dira, j'ai empêché ceux qui ont chassé des démons en ton nom parce qu'ils ne te suivent pas. Et Jésus dira, mais ne les empêchez pas, ceux qui ne sont pas contre moi sont pour moi. Et ça rappelle Moïse. Moïse avec Josué, lorsque l'Esprit de Dieu descend, Josué qui a vu que deux personnes n'étaient pas au rendez-vous, dit, mais non, il ne faut pas qu'ils aient la bénédiction. Et Moïse dira quelque chose de prophétique pour nous aujourd'hui, mais que tout le peuple prophétise, que tout le peuple soit rempli du Saint-Esprit, que tout le peuple soit revêtu de cette puissance. Pourquoi ? Parce que Moïse savait très bien que nous avons besoin de Dieu le Saint-Esprit, non seulement pour vivre, mais aussi pour le servir. L'état des lieux pendant la Pentecôte, c'est quoi ? C'est des personnes qui sont déjà nées de nouveau. Peut-être certains se disent, bon, ils ont besoin du Saint-Esprit pour recevoir la vie, mais on sait qu'ils ont déjà été mandatés par Christ pour aller chasser des démons, pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et il est dit, Jésus leur dira, avant la Pentecôte, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Donc toutes ces personnes, il y a plusieurs textes qui parlent de ça. L'état des lieux, c'est que nous avons ces 120 qui ont cru dans la résurrection de Christ, qui sont sauvés, qui sont nés de nouveau, véritablement. Et quand ils sont dans cette chambre haute, le deuxième contexte, c'est que nous sommes dans la fête de Shavuot, la fête des semaines, la fête de la récolte. Chez les Israélites, il y a cette fête après Pâques, après Pessah, après la croix, pendant 50 jours, eh bien, il va y avoir ces semaines, cette semaine, où on va prier Dieu que les vents secs soient là, soient au rendez-vous, que la pluie soit au rendez-vous pour que la terre produise le fruit, produise la nourriture. Et quand on arrive à ce 50e jour, ou 49e, on va se réjouir, on va remercier Dieu. Ça, c'est la fête de Shavuot, la fête des semaines, la fête des prémices, de la récolte. Et nous sommes dans ce contexte-là. Et alors que le sacrificateur est dans le temple, dans Lévitique 23, et qui prend ses deux pains, et il va comme un symbole entre la nourriture terrestre, on remercie Dieu pour la nourriture, on remercie Dieu pour le toit, on remercie Dieu pour ce qu'il nous accorde, mais également pour la nourriture spirituelle. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et des spécialistes, des experts ont calculé que pour le peuple d'Israël, lorsqu'ils sortent d'Égypte, lorsqu'ils passent la mer Rouge, ils vont arriver au Sinaï et Dieu fait don de sa parole, de sa loi. Et il y a comme une alliance qui est faite. Dieu s'engage et dit « Je m'engage avec fidélité pour que en tant que peuple de Dieu, vous puissiez être dans cette relation, que Dieu puisse tabernacler, puisse être présent, puisse être là, de bénéficier de sa présence extraordinaire, de sa parole, mais également que vous soyez des témoins pour les nations. Ça, c'est avec Moïse. Et en parallèle, on a ses disciples, on a cette première église, ses prémices, qui sont dans cette chambre haute, et dans ce moment très précis, de ces 50e jours Pentecôte, ça veut dire 50e, Émera, le 50e jour, voilà que le vent de l'Esprit descend et va remplir le cœur, la vie de ces chrétiens, de cette première Église. Et à ce moment-là, ils vont commencer... Eux-mêmes, les prémices, vont commencer à parler en langue, vont commencer à dire les merveilles de Dieu. Et ça va faire du bruit. Alors qu'ils étaient avant cachés dans leurs murs, alors qu'ils avaient peur, alors qu'ils avaient des doutes, voilà que d'un seul coup, la puissance du Saint-Esprit vient et ils commencent à parler les merveilles de Dieu. Et ils ne se cachent pas. La preuve, c'est que tous ceux et celles qui sont venus à cette fête viennent et accourent. Et il y a des représentants de toutes les nations. En tout cas, de beaucoup de nations. Et certains vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Et certains entendent l'Église proclamer hautement, avec courage, avec ferveur, par le Saint-Esprit, des louanges dans leur propre langue. Alors, certains vont être émerveillés, d'autres vont se moquer, en disant, mais il se passe quoi, là? Ils ont bu un petit peu trop, hein? Ils sont pas bien, quoi. Il y a un mépris, il y a une moquerie par rapport à ce qui est en train de se passer, qui est historique. Parce que là, c'est la célébration, c'est le départ, c'est le coup d'envoi de la nouvelle alliance. La parole de Dieu qui a été annoncée, qui a annoncé la bonne nouvelle de Christ, qui sauve, qui nous remplit, qui nous libère, qui, en même temps, en tant qu'Église, nous remplit de sa puissance, de son hardiesse. Je ne vais pas développer les différentes actions du Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit, dans son action ou dans ses actions, est infiniment varié. Dieu, le Saint-Esprit, nous amène à naître de nouveau. Dieu, le Saint-Esprit, nous amène dans une sanctification. Dieu, le Saint-Esprit, nous amène à porter du fruit, le fruit de l'Esprit. Mais en même temps, Dieu, le Saint-Esprit, amène ce mouvement, quand il est dit « baptisé du Saint-Esprit », c'est un verbe d'action, c'est un mouvement qui nous amène à recevoir d'un seul coup, d'une manière ponctuelle, une puissance pour le service. Pour le service. Et je partagerai pas pléros, pim plémi, vous réécoutez là ce que Christian a partagé dans la conférence où vous revenez à vos cours sur la croissance. Mais l'action du Saint-Esprit est une action continue au travers de la sanctification du fruit de l'Esprit. Mais force est de constater, frères et sœurs, qu'en tant qu'Église, on a aussi besoin de ce revêtement de puissance, revêtement du Saint-Esprit. Élisabeth, lorsqu'elle entend la salutation de Marie, Le Saint-Esprit descend sur elle. C'est comme elle est immergée. Quand on reçoit cette puissance, on l'a vécu avec l'évangélisation de rue, avec Inca. Pourquoi on a passé des soirées dans la présence de Dieu ? Parce qu'on avait ce désir, cette aspiration, cette soif de dire à Dieu le Saint-Esprit, viens nous renouveler, viens nous communiquer cette force qui vient d'en haut. Le Saint-Esprit est en nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit, on est sauvés, tout va bien. Mais pour le service, on ne peut pas servir Dieu avec notre force. On ne peut pas. C'est juste impossible. Et si on le fait, alors l'Église devient un club. L'Église devient un centre philosophique où on peut citer des versets. On peut faire beaucoup de choses, on peut faire même du bien. C'est très bien. Mais Dieu a choisi cette stratégie. Il a choisi cela. Il a dit à son Église, attendez et recevez. Comme il nous dit encore ce matin, venez à moi, vous tous qui avez soif. Venez, recevez, soyez renouvelés. Autant le Saint-Esprit, lorsqu'on est nouveau, il est en nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit, autant cette puissance, cette onction peut être renouvelée pour différents services. Et nous pouvons y aspirer. Qu'est-ce qui se passe à la Pentecôte? Bien sûr, parler en langue, mais surtout une hardiesse pour témoigner. Une hardiesse. Pierre qui a renié Jésus, Pierre qui était dans cette insécurité de dire est-ce que vraiment Dieu m'aime, il était pas bien, on l'a vu. Et cependant, il se lève rempli du Saint-Esprit. Comme Étienne, lorsqu'il se lève, il est dit qu'il est rempli du Saint-Esprit. Il est capable de prêcher la parole alors qu'il a une foule qui va lui lancer des cailloux. Comment c'est possible? Humainement, c'est impossible. Impossible. Et l'Église de Christ, dans son histoire, ce n'est pas seulement au 1er siècle. Parce que l'histoire s'est répétée, on peut voir après que s'est-il passé après la Pentecôte. Eh bien, après la Pentecôte, l'histoire s'est répétée avec Corneille, avec les Samaritains, avec les Éphésiens, toujours dans les Actes. Et quand vous lisez ces textes-là, vous voyez que ce sont des personnes qui sont déjà passées par les eaux du baptême. Ils ont déjà confessé Christ. Et à un moment donné, les apôtres vont leur demander « Mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit ?» Mais pas la nouvelle naissance, le don du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Et ils vont dire « On n'a même pas entendu. Avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Vous l'avez ici, dans le texte. Acte 19, sont avec les Éphésiens. Ils sont sauvés, c'est extraordinaire. Mais est-ce que vous avez reçu ce revêtement de puissance ? Pour pouvoir servir Dieu avec efficacité. Pour ne pas se retrouver seul, pour ne pas se retrouver désespéré, de dire on va essayer, on a témoigné à quelqu'un, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Gloire à Dieu, au bout de 20 ans, il y a un converti. Gloire à Dieu. Mais je crois que par la puissance du Saint-Esprit, eh bien, on peut être beaucoup plus percutant. Et on a besoin de cela. Après la Pentecôte, vous allez me dire, c'est la Bible, c'est le 1er siècle. Mais après, est-ce que vraiment c'est encore pour aujourd'hui ? Bien, on voit dans l'histoire qu'il y a eu des actions du Saint-Esprit fortes, notamment au XVIIIe siècle, avec John Wesley, les méthodistes. Les méthodistes ont vécu un réveil. Et au XVIIIe siècle, ils ont vécu cette expérience du Saint-Esprit, qu'ils ont appelé la deuxième bénédiction, parce qu'ils la distinguaient de la nouvelle naissance. Et puis après, il y a eu tous ces mouvements de sainteté, il y a eu tous ces mouvements au XIXe siècle, qui ont également recherché la présence de Dieu. Et à un moment donné, il y a eu également des actions, il y a eu des bénédictions particulières, ils ne comprenaient pas vraiment, ils l'ont appelé... Des moments d'amour avec Dieu, des moments où on a été sanctifié, mais il y a eu une bénédiction particulière et du fruit. À Keswick, en Angleterre, et au début du XXe siècle, Dieu a lancé son top pour dire il va y avoir une effusion mondiale du Saint-Esprit. Et voilà que la redécouverte du baptême du Saint-Esprit, en plus accompagnée du parler en langue, en plus accompagnée de la guérison divine, a amené l'Église de Christ au XXe siècle à une croissance extraordinaire. Extraordinaire. Et à chaque fois qu'il y a eu des mouvements de Dieu, à chaque fois qu'il y a eu des vagues avec les mouvements pentecôtistes du début du siècle, avec le mouvement charismatique chez les catholiques et chez les protestants au milieu du siècle, et également après avec ces nouvelles vagues dans les années 80, 90, à chaque fois, même si on peut discuter, et on ne va pas le faire, de dire, il y a eu des débordements, pas débordements, mais il y a eu une action du Saint-Esprit. À chaque fois, que s'est-il passé? Il y a eu une résurgence, une réactivation, comme une vitalité pour évangéliser. Vous savez, le mouvement de Lausanne 1974, je crois que Jean-Pierre, Suzanne, vous étiez à ce moment-là, il me semble, c'est le fruit du réveil charismatique. Les mouvements missionnaires du début du siècle, c'est le fruit de cette effusion du Saint-Esprit. On peut l'appeler comme on veut, on peut discuter sur les mots, mais la réalité, c'est que l'action de Dieu a amené des vagues d'évangélisation. Et autre chose, à chaque fois qu'il y a eu des visitations, et je vais terminer avec ça, parce qu'on va prier, à chaque fois, il y a eu d'un seul coup un renouvellement de l'adoration, une créativité, un élan de cœur. À chaque fois, nous on a vécu ça. Et à chaque fois qu'il y a des visitations, des renouvellements, d'un seul coup, l'adoration, la louange, l'expression à Dieu est renouvelée. Amen. On pourrait continuer, je vais m'arrêter là, parce que je voudrais juste qu'on se tienne devant le Seigneur ensemble et qu'on puisse fermer nos yeux, frères et sœurs, et qu'on puisse, alors que nous sommes dans sa présence extraordinaire, on peut avoir cette liberté. Ce matin, peut-être Laurent, s'il te plaît, si tu veux juste venir. On va simplement laisser la place pendant quelques minutes à l'action du Saint-Esprit. Il est déjà à l'œuvre, hein, depuis un moment. Mais tous ces textes-là, ils sont là pour nous encourager en tant qu'Église du XXIe siècle. Église de Bussigny, sur Lausanne, en Suisse et ailleurs. De dire, nous, on ne peut pas forcer les choses, on ne peut pas créer des choses, on ne peut pas fabriquer des choses. On peut simplement entendre ce que dit la parole de Dieu et on peut simplement ouvrir nos cœurs comme il a été prié plusieurs fois depuis ce matin. Et comme on l'a vu, tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont vu la résurrection de Christ. Alors ça ne veut pas dire que ça tout a été résolu après la Pentecôte. Il y a toujours eu des combats, des problèmes, des choses à régler. Mais la dimension de l'Église a pris de l'ampleur. Et aujourd'hui, à la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, on pouvait dire qu'à ce moment-là, il y avait 500 millions de pentecôtistes charismatiques. Et je crois qu'aujourd'hui, il y en a encore davantage. Et alors que nous sommes dans sa présence et que nous sommes dans notre réalité avec toutes nos limites, et on sait que Christ est ressuscité, on aime Dieu, on le sert, mais en tant qu'Église, est-ce que simplement, alors que nos yeux sont fermés, on peut lui dire, Seigneur, je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre ma vie, je t'ouvre tout mon être entier. Je te dis, me voici, Seigneur. Je suis le temple du Saint-Esprit, mais Seigneur, fais ce que tu veux. Que tu le fasses maintenant, que tu le fasses ce soir, que tu le fasses demain, mais je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Viens par ton Saint-Esprit, viens faire que ta volonté soit faite. Seigneur, je soumets mon esprit, mon âme et mon corps à ta seule et entière Seigneurie. Seigneur, tu nous as appelés en tant qu'Église pour être témoin de ta gloire et témoin de toi. Tu nous as appelés à aller faire de toutes les nations des disciples. Et à Lausanne, il y a déjà toutes les nations. Saint-Esprit, nous voici devant toi. Et j'avais à cœur pendant la louange, il y a des jeunes aussi, c'est pour tous les âges. à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, ça a enlevé toutes les barrières entre juifs et non-juifs, entre femmes, hommes, entre quel que soit l'arrière-plan socio-culturel. Le Saint-Esprit est venu, il y a une action qui a réuni, qui a rassemblé. Et c'est ce qui s'est passé également lorsque, au XXe siècle, il y a eu ces effusions au Pays de Galles, Azusa Street. D'un seul coup, un pasteur noir, William Seymour, dans les États-Unis ségrégationnistes, il sortait de l'esclavage, excusez-moi pour nos frères et sœurs qui sont africains. Mais voilà que Dieu l'appelle. Quand il a suivi l'école biblique, il est obligé de suivre l'école en dehors de la classe parce qu'il était noir. Et voilà que ce frère, à Los Angeles, 1906 à 1909, il a fait des réunions dans une grange. Et l'Esprit de Dieu est descendu. Ils ont fait 3 réunions par jour, pendant 7 jours sur 7, pendant 3 ans et demi. Et voilà qu'il y a des pasteurs de toutes les nations qui sont venus et qui ont reçu, qui ont été vraiment impactés par l'influence de cette Pentecôte du XXe siècle et qui sont retournés dans leur pays et qui ont propagé, qui ont diffusé cela par la foi. Alors que nous sommes dans sa présence, il n'y a pas de différence. Le Saint-Esprit nous réunit, nous rassemble. Et alors qu'on est en train de lui dire, Saint-Esprit, viens, je t'ouvre mon cœur, je te soumets ma vie. Seigneur, je veux faire ta volonté, je veux recevoir. Il dit dans la parole de Dieu, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et je crois que Dieu nous appelle et nous dit, la promesse est pour nous. La promesse est pour cette église, notre église. La promesse, quel que soit ce que l'on ressent, est là. La seule chose, c'est ce qui a été prié tout à l'heure. Venez, vous tous qui avez soif. Venez. Est-ce que j'ose, alors que les yeux sont fermés, je suis conscient qu'on arrive à l'heure de la fin de ce culte, j'ose dire... De la part du président, si vous avez besoin de partir, soyez libres de le faire. C'est pour ça qu'on a fait aussi les annonces avant, mais on veut simplement laisser de la place à Dieu. Et alors qu'on va prendre un temps dans sa présence, que Laurent joue, et peut-être tout à l'heure aussi le groupe de louanges peut prendre un chant, je vais nous inviter simplement à nous avancer devant, comme un signe de dire, Seigneur, viens, je viens vers toi, Seigneur. Et puis, j'invite l'équipe aussi d'avoir cette liberté d'imposer les mains, de prier aussi, selon comment le Seigneur conduit. Mais c'est comme pour dire, Seigneur, me voici, je fais un acte de foi. Je m'avance, je viens vers toi, Seigneur. Et on veut simplement prendre ce temps. Et je crois que ce que le Saint-Esprit est en train de faire, je voudrais aussi vous mettre à l'aise. Je sais que le Saint-Esprit est capable... aussi, même si vous ne ressentez rien ou si vous ne voyez rien, d'ailleurs, on va lui laisser la place, on n'est pas en train de chercher quelque chose. Mais je me souviens que quand on a vécu ces temps avec le groupe de jeunes dans lequel j'étais, il y avait une telle action que même la nuit, on a commencé à parler en langue pendant qu'on dormait. Pendant une semaine, on a été visités. Et je me souviens que d'un seul coup, pour certains qui n'avaient rien ressenti, ils étaient rentrés, ils ont commencé à parler en langue dans leur sommeil. On ne limite pas le Seigneur, hein, il est Seigneur, c'est lui qui décide. Mais par contre, notre mandat, c'est de dire, je t'ouvre mon cœur, j'ai soif. Viens, je suis d'accord pour faire ta volonté. Et je prie également que cette église puisse entrer dans toute cette dimension de la puissance du Saint-Esprit. Et que un grand nombre découvrent le salut au travers du témoignage des uns et des autres. Amen. Voilà, je vous laisse la liberté de vous avancer. L'équipe, si vous voulez imposer les mains également. L'équipe louange, soyez libre également. Juste au niveau volume, peut-être pas trop, parce que quand on prie. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, merci parce que tu honores la foi, parce que nous croyons ta parole. Seigneur, on ne veut pas fabriquer, mais on veut simplement te dire, nous voici, Seigneur. Alors que pour beaucoup, Seigneur, c'est un jour férié de détente. Seigneur, merci parce que pour beaucoup, c'est également un rendez-vous avec toi. C'est un temps où nous sommes à la maison, Nous sommes en famille. Tu es notre Père céleste. Et si on te demande du pain, tu ne vas pas nous donner une pierre. Merci Père parce que tu n'attends pas qu'on soit parfait pour être visité. Mais tu veux simplement que nous soyons là et dans la foi, Seigneur. Merci. Merci pour ton action ce matin. Et s'il y a des amis qui ne connaissent pas Christ, qui n'ont pas l'assurance d'avoir la vie éternelle, approchez-vous, on va prier pour vous. Vraiment, soyez libres de venir et de donner votre vie à Christ, de demander pardon pour vos péchés. Et simplement, venez voir, il y a Christian, pasteur, je suis disponible également. Venez nous voir et on va prier pour cela. Et frères et sœurs, que vous soyez devant, que vous soyez dans la salle, et bien maintenant, et l'équipe de louange, soyez inspirés. On va simplement être là. Nous sommes chacun des serviteurs et des servantes. Nous avons que, on impose les mains ou non, recevons parce que l'Esprit de Dieu est en train de se manifester dès maintenant. Amen. Amen.